Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Pour les uns qui voyagent, les étoiles sont des guides. Pour les autres, elles ne sont rien que des petites lumières. Pour d'autres, qui sont savants, elles sont des problèmes. Pour mon businessman, elles étaient de l'or. Mais toutes ces étoiles-là, c'étaient. Toi, tu auras des étoiles comme personne n'en a.
Que veux-tu dire?
Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Toi, tu auras des étoiles qui savent rire. Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, page 91-92. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Moi, je suis Noémie Soldati et je suis avec ma collègue Sylla. Bonjour Sylla.
Bonjour Noémie, bonjour Radio Campus.
Il est 11h30, c'est à peine les débuts de la journée. Il fait assez beau aujourd'hui. Dans plusieurs heures, la journée s'achèvera peut-être par un joli petit coucher de soleil. Puis ce ciel bleu laissera sa place à l'obscurité. Et dans ce ciel sombre apparaîtront des petites lumières scintillantes. Les sujets de notre mission, les étoiles.
En effet, depuis des siècles, savants, scientifiques et milliards d'êtres humains contemplent ce ciel et ses étoiles, à la fois pour les étudier et pour les admirer. Le titre de notre émission est « Les étoiles sont-elles nos amies ?» Notre angle repose sur une idée fascinante, la matière stellaire qui nous compose. Pour répondre à cette question, nous avons interrogé une spécialiste des étoiles, une astronome. Sophie Van Eck exerce son métier à l'ULB depuis 2003. Nous l'avons sollicitée à partir de sa conférence de 2017 et ses articles dans lesquels elle qualifie ses astres d'alchimistes. Ce surnom est en réalité une image pour décrire ses corps célestes.
Les alchimistes au Moyen-Âge essayaient de fabriquer des éléments chimiques. Ils n'avaient pas la possibilité matérielle de le faire. Ils pensaient que par la chimie, justement, on arriverait à transmuter les éléments, comme ils disaient, c'est-à-dire à fabriquer à partir de certains éléments chimiques, comme le plomb, de l'or. C'était un peu le rêve des alchimistes, c'était de changer le plomb en or. En réalité, on ne peut pas y arriver par la chimie, ce sont vraiment des réactions nucléaires qui sont nécessaires. Et ces réactions nucléaires, elles ont lieu au cœur des étoiles. Donc c'est en ce sens qu'on dit parfois que les étoiles sont les véritables alchimistes de l'univers, puisqu'elles fabriquent des éléments chimiques.
Les alchimistes de notre univers. Comme dans toute histoire, il y a un début et une fin. Alors, quel est le début de notre univers?
Au début de l'univers, il n'y avait aucun élément chimique. Si je peux vraiment prendre la notion de début de l'univers comme le moment du Big Bang, donc il y a eu un bain de particules élémentaires. Et l'univers a commencé à se dilater et donc à se refroidir. Et ça a rendu possible le fait que ces particules élémentaires commencent à s'assembler. Et elles se sont assemblées de manière à former les éléments les plus légers connus, qui sont l'hydrogène et l'hélium. Et donc, l'hydrogène et l'hélium ont été produits par cette nucléosynthèse dite primordiale.
La nucléosynthèse primordiale correspond au processus de formation des premiers noyaux atomiques et des éléments chimiques de l'univers. Selon la théorie du Big Bang, elle s'est déroulée durant les 10 premières minutes de son histoire.
Ensuite, Noémie, l'univers a continué à se dilater et à se refroidir jusqu'à ce que la formation de nouveaux éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium ne soit plus possible. À ce moment-là, la composition chimique de l'univers s'est figée.
Il a fallu attendre quelques millions d'années plus tard pour que les premières étoiles se forment et que par là, il y ait de nouveaux points chauds, comme on appelle ça dans l'univers, c'est-à-dire des endroits où les conditions de température élevées et de pression importante étaient réunies pour pouvoir de nouveau enclencher la production d'éléments chimiques.
Mais si là, s'il n'y avait au départ que de l'hydrogène et de l'hélium, comment se sont formés tous les éléments chimiques que nous connaissons aujourd'hui?
Eh bien, il y a deux grands mécanismes, la fusion nucléaire et la capture de neutrons.
La fusion nucléaire, j'aime bien ces termes. C'est qui fait briller les étoiles, non?
Exactement. Donc, dans le cœur des étoiles, les températures et les pressions sont tellement élevées que les noyaux légers, comme l'hydrogène, se combinent pour former des noyaux plus lourds, comme l'hélium. Et à chaque réaction, une énorme quantité d'énergie est libérée. C'est ce qui fait que les étoiles brillent. Petit à petit, la fusion produit des éléments jusqu'au fer.
Et pour les éléments plus lourds que le fer ?
Là, alors, on entre dans un autre processus, la capture de neutrons. Les noyaux de fer capturent des neutrons libres et par des désintégrations successives, ils deviennent des éléments plus lourds comme l'or, le plomb ou l'uranium.
Donc, ces éléments lourds ne se forment pas dans toutes les étoiles ?
Non, il faut des conditions extrêmes, des supernovas ou même la collision de deux étoiles à neutrons. C'est dans ces événements violents que le processus R, c'est-à-dire la capture de neutrons, peut vraiment fabriquer ces éléments.
Alors, chaque atome d'or ou d'uranium que l'on trouve sur Terre vient de catastrophes cosmiques lointaines.
Exactement. Et tous ces éléments lourds sont nés dans l'univers à partir de la mort spectaculaire des étoiles. On peut dire que nous portons en nous l'histoire de ces explosions. Ça me fait un peu rappeler la chanson de Zaz. Tu la connais ?
Non, c'est laquelle ?
C'est celle-ci.
On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir le thé dans les soukas Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bomber sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Yobat au cœur de Janeiro. On fera des jours de fête autant qu'on a deux héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura.
Très bon choix de musique, Sila. Mais maintenant, je propose de rentrer dans le cœur de notre sujet, les étoiles. Je me suis toujours demandé comment elles sont nées. Comment une étoile peut-elle apparaître dans l'immensité de l'espace ?
Eh bien, les étoiles prennent vie dans d'immenses nuages de gaz et de poussière que les astronomes appellent les nuages moléculaires ou les nébuleuses. Ces régions froides, parfois gigantesques, contiennent surtout de l'hydrogène et de l'hélium, les éléments les plus abondants de l'univers.
Donc, tout commence avec un nuage de gaz. Mais comment devient-il une étoile ?
La gravité joue ici le rôle de chef d'orchestre. Elle attire le gaz et la poussière vers les zones les plus denses. Petit à petit, ces amas deviennent de plus en plus compacts. Et quand un amas est assez serré, il s'effondre sous son propre poids. D'ailleurs, Noémie, un amas est simplement l'assemblement de plusieurs centaines de galaxies reliées entre elles grâce à la gravitation.
Et pendant cet effondrement, que se passe-t-il exactement ?
Eh bien, la matière s'agglomère et en se comprimant, elle chauffe. On appelle cette phase la contraction gravitationnelle. Le cœur du futur astre devient alors extrêmement chaud, atteignant des millions de degrés.
Mais maintenant, je me pose une question. Avant d'être une vraie étoile, comme on connaît et voit aujourd'hui, il y a donc une étape intermédiaire.
Exactement. Et on appelle ce stade le protostar ou bien une proto-étoile, donc une étoile en pleine formation. À ce moment-là, l'objet brille déjà faiblement, mais il n'est pas encore une étoile à part entière. Il devient une étoile véritable quand la fusion nucléaire s'allume dans son cœur, comme je l'ai expliqué là tantôt.
Mais alors, elles naissent seules, ces étoiles ?
Pas toujours. Souvent, plusieurs protostars se forment dans le même nuage, donnant naissance à des amas d'étoiles. Ces crèches stellaires hébergent les étoiles encore jeunes, enveloppées dans leurs nuages de gaz d'origine.
Et les étoiles les plus massives ont un rôle particulier, n'est-ce pas ?
Absolument. Leur lumière intense et leur vent stellaire peuvent balayer le nuage autour d'elles, mais aussi déclencher la naissance de nouvelles étoiles en comprimant la matière voisine. Et en vrai, c'est un véritable cycle de création cosmique.
J'aime bien ce que tu as dit, un véritable cycle de création cosmique. Donc, chaque étoile que l'on voit dans le ciel raconte une histoire vieille de millions d'années.
C'est ça. Et lorsque l'on regarde ces lumières scintiller la nuit, on peut imaginer toutes ces forces invisibles à l'œuvre pour donner naissance à des astres et à l'univers que nous connaissons.
On parle beaucoup de la naissance et de la mort des étoiles. Mais est-ce qu'elle influence vraiment l'univers autour d'elle ?
Absolument. Les étoiles ne sont pas seulement des sources de lumière et de chaleur, elles modifient aussi le milieu interstellaire. Le vent stellaire, c'est-à-dire des flux de particules chargées expulsées par les étoiles qui sculptent les nuages de gaz et de poussière, peuvent déclencher ou bien inhiber la formation de nouvelles étoiles.
Mais donc, une étoile peut être, peut entre guillemets, réveiller la naissance d'une autre étoile.
Oui, et les supernovas jouent un rôle encore plus spectaculaire. Elles envoient des vagues de choc dans l'espace, dispersent les éléments chimiques qu'elles ont produits et créent des zones de haute densité propices à la formation des étoiles et de planètes.
Comme tu le disais, c'est comme un cycle de vie interconnecté.
C'est ça, exactement. Et ces interactions ne se limitent pas aux étoiles. Elles influencent la structure des galaxies, la répartition des éléments chimiques et même le rayonnement cosmique qui baigne notre système solaire.
Mais alors, quel rôle jouent les étoiles dans les processus des créations d'éléments si essentiels à notre univers ?
Les étoiles transforment des éléments simples en éléments plus complexes et plus lourds grâce à des réactions spécifiques.
Toutes les étoiles ne fabriquent pas les mêmes éléments chimiques. Et justement, alors, non seulement il y a différents processus de nucléosynthèse.
La nucléosynthèse stellaire correspond à l'ensemble des réactions de fusion nucléaire qui se produisent au cœur des étoiles. Elle transforme l'hydrogène et l'hélium en éléments plus lourds.
Mais il y a également différents sites astrophysiques, c'est-à-dire différents endroits dans l'univers où il est possible de fabriquer des éléments chimiques. Les étoiles massives, et par massives j'entends des étoiles qui ont une masse supérieure à 8 à 10 fois la masse du Soleil, vont parvenir à exploser en supernova.
Une supernova est l'explosion d'une étoile en fin de vie.
Et à fabriquer des éléments, on va dire léger, c'est-à-dire plus léger que le fer. En revanche, les étoiles de masse faible et intermédiaire, c'est-à-dire des étoiles dont la masse est comprise entre celle du Soleil, ou même plus légère que le Soleil, jusqu'à 8 à 10 fois la masse du Soleil, ces étoiles-là vont être capables, dans les phases avancées de leur évolution, c'est-à-dire quand elles seront devenues des étoiles géantes rouges, très évoluées, juste avant la fin de leur vie, on pourrait dire, elles vont être capables de fusionner des neutrons avec des noyaux de fer et donc à produire tous les éléments plus lourds que le fer. Il y a encore un troisième site envisagé qui est la fusion d'étoiles à neutrons. Les étoiles à neutrons, c'est ce qui reste après l'explosion d'une étoile en supernova quand l'étoile n'a pas une masse trop importante.
Si là, depuis là, ton tour, tu me parles de supernova. Mais est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est ?
Bien sûr. Donc, lorsqu'une étoile arrive en fin de vie, elle peut exploser. Cette explosion est extrêmement lumineuse. Après une supernova, il peut rester soit une étoile à neutrons, donc un objet extrêmement dense, soit un trou noir. D'ailleurs, on distingue deux types de supernova. La première, la supernova de type 1, se produit dans un système de deux étoiles en orbite. L'une d'elles, une géante rouge, va transférer de la matière à son étoile compagnon en fin de vie. Ce phénomène finit par provoquer une explosion qui produit des éléments relativement légers. La seconde, qui est la supernova de type 2, concerne les éléments massifs qui explosent en fin de vie.
Ce que tu viens de raconter, c'est très intéressant. Mais il existe aussi un autre phénomène, avec un nom assez proche.
Oui, la Kulonova, c'est ça?
Oui, c'est exactement ça. Je n'arrivais pas à m'en souvenir. Et du coup, c'est quoi la différence entre ces deux phénomènes?
Eh bien, une Kulonova correspond à la collision de deux étoiles à neutrons. Cet événement produit des ondes gravitationnelles, mais aussi des ondes électromagnétiques. Et ces ondes, justement électromagnétiques, transportent la signature des éléments chimiques avec lesquels elles ont interagi tout au long de leur trajet.
Je comprends mieux. Finalement, même les interactions les plus violentes entre les étoiles participent à illuminer notre ciel. Et parmi toutes ces lumières, certaines nous marquent plus que d'autres.
Oui, et comme dans Le Petit Prince, on finit parfois par en choisir une. Une étoile à soi, une étoile qui nous garde, qui nous guide, et notre bonne étoile.
Passé, le son de ta voix ne résonne plus dans mes oreilles et le silence du passé m'écorche. Le temps passé, les traits de ton visage s'effacent comme un coup de crayon de papier laissé dans un cahier d'école. Le temps passe, les souvenirs entachés par les années qui s'écoulèrent aussi vite qu'un avion qui décolle. Le temps passe, mais ton sourire est gravé dans mon esprit comme des initiales taillées au couteau dans l'écorce. Je t'ai pas revu depuis des années, je sais qu'on ne se reverra jamais. J'ai des cassettes pour me rappeler la force avec laquelle tu m'aimais, wow. Je t'ai pas revu depuis des années, je sais qu'on ne se reverra jamais. J'ai des cassettes pour me rappeler la force avec laquelle tu m'aimais, wow. C'est ton amour, ma bonne étoile, oh. C'est ton amour, ma bonne étoile, wow. C'est ton amour, ma bonne étoile. La terre, afin de combler le vide, je mange comme si mon corps avait la recette. Le temps passé nous met à la manche quand la faucheuse nous vise à la tête. Le temps passe, nous abîme et nous change. Mais j'ai toujours le cœur léger face à la mer. Le temps passé, le deuil, je le ressens comme une partie de mon âme arrachée, de mon cœur qui lui se décolle. Le temps passé, mes peurs se sont cachées dans la profondeur de mes larmes qui ne coulent que lorsque je n'ai plus de force. Le temps passé continue de passer dans mes écrits, je t'ai ancré car ta sagesse traverse les époques. Le temps passé, le jour où je m'arrête, la mélodie restera, elle comme un hommage parsemé de bémol. Oh, c'est ton amour, ma bonne étoile. Oh, c'est ton amour, ma bonne étoile.
Pas de passé, je n'ai pas d'avenir. J'ai l'instant présent. Très fort. Violemment. Je crois qu'il faut pouvoir et savoir refaire sa vie à chaque matin. C'est très important.
Juste comme la chanson le dit, pas de passé, pas d'avenir. Tout comme pour une étoile, car une étoile meurt aussi. Mais que se passe-t-il à la fin de sa vie ici-là?
Le destin d'une étoile dépend de son type et surtout de sa masse. Une étoile peu massive, comme le Soleil, devient une géante rouge lorsqu'elle arrive en fin de vie. Elle continue à produire des éléments chimiques au cœur de son étoile via la capture de noyaux de fer. Mais elle n'explose pas. Elle va simplement perdre progressivement son enveloppe par des vents stellaires jusqu'à ne laisser que son cœur, composé de carbone et d'oxygène.
Et lorsqu'une étoile est beaucoup plus massive ?
Eh bien, dans ce cas, elle finit par exploser en supernova, comme je l'ai déjà expliqué là tantôt. Et puis, elle libère une immense quantité d'énergie et de matière dans l'univers.
Même si les étoiles sont très loin de nous, produisent-elles des choses dont nous bénéficions ici sur Terre ?
Bien sûr, et professeur Van Leck l'explique dans son interview.
Les éléments présents sur Terre, à part l'hydrogène et l'hélium, ont tous été fabriqués, en effet, par des étoiles de différents types, de différentes masses et ayant eu différents types d'évolution. En effet, donc, le fer, le carbone, l'oxygène, le calcium ont tous été fabriqués au cœur d'étoiles. La question est comment sont-ils parvenus depuis le cœur des étoiles jusqu'à la Terre ? Eh bien ça, c'est tout un domaine de recherche qui s'appelle l'évolution chimique de la galaxie. Les étoiles de différentes masses, de différents types, fabriquent ces éléments chimiques. À la fin de leur vie, les expulsent d'une manière ou d'une autre dans l'espace. À partir des éjecta, se reforment de nouvelles étoiles avec un disque protoplanétaire.
Le disque protoplanétaire, c'est les disques de gaz et des poussières en rotation autour d'une jeune étoile.
Et à partir de ce disque protoplanétaire vont se former des nouvelles planètes. Mais comme tout ceci provient des éjecta d'étoiles anciennes, ces éjecta étant enrichis en éléments lourds, en carbone, azote, oxygène, etc., eh bien les planètes qui vont se former elles-mêmes vont être composées de ces éléments chimiques plus lourds. Donc en effet, le carbone, l'azote, l'oxygène, enfin tous les éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium qu'on a sur Terre ont été, par le passé, fabriqués au cœur d'étoiles de différents types, de différentes masses.
Ce que l'astronome a expliqué est très enrichissant, mais je me pose encore une question, Sylla. Comment peut-on étudier ces éléments ?
Eh bien ça, c'est grâce à un outil appelé le spectrographe. Il décode ce que l'on peut comparer à un code barre dans la lumière des étoiles. Cette lumière, propre à chaque étoile, révèle la manière dont les photons, c'est-à-dire les particules composant la lumière, ont interagi avec les éléments chimiques. Le spectrographe, permet de séparer la lumière en différentes composantes que l'on peut ensuite analyser pour comprendre la composition chimique des étoiles et indirectement de la matière qui nous entoure.
Mais pour rebondir sur la vie d'une étoile, quand elle meurt, tout s'arrête vraiment ?
Pas du tout. En réalité, la fin d'une étoile n'est pas une fin, mais une transformation.
Comment ça ?
Lorsqu'une étoile arrive en fin de vie, elle libère la matière qu'elle a fabriquée pendant des millions, voire des milliards d'années. Cette matière est expulsée dans l'espace sous forme de gaz et de poussière.
Donc, les étoiles rendent ce qu'elles ont créé.
Exactement. Que ce soit de manière douce, via des vents stellaires, ou de façon spectaculaire, lors d'une supernova, elles enrichissent l'espace autour d'elles.
Et cette matière, elle disparaît ensuite ?
Non, au contraire. Elle va se mélanger au milieu interstellaire, ce vaste espace rempli de gaz et de poussière entre les étoiles. Et c'est justement cette matière enrichie qui va servir à former des nouvelles étoiles et même des nouvelles planètes.
Donc il y a une sorte de cycle de transmission.
Oui, c'est ça. Et les étoiles naissent, vivent, fabriquent des éléments chimiques, puis les dispersent dans l'univers. Et à partir de cette matière, de nouvelles générations d'étoiles et de systèmes planétaires voient le jour. C'est une transmission cosmique. Chaque étoile laisse derrière elle un héritage, une matière qui va voyager dans l'espace et participer à la formation d'autres mondes.
Chaque étoile laisse derrière elle un héritage. Donc, quelque part, ce que les étoiles fabriquent ne reste jamais vraiment perdu.
Non. Rien ne se perd, tout se transforme. Et cette transformation se fait même à l'échelle de l'univers.
Et Sylla, est-ce que tu penses qu'il existe encore des éléments dont nous ignorons l'origine ?
Eh bien, Sophie Van Eck a expliqué que la moitié des éléments plus lourds...
La moitié des éléments plus lourds que le fer, on ne comprend pas leur origine. Donc, ce n'est pas quelque chose de négligeable. Vous voyez le tableau périodique, vous voyez les éléments plus lourds que le fer, bien, la moitié de ces éléments-là, on ne sait aujourd'hui pas exactement dans quel site astrophysique et dans quelles conditions ils sont produits. Donc c'est des éléments dont voilà, on sait qu'ils sont produits par un processus qu'on a appelé processus R, qui est un processus de capture de neutrons qui se passe quand les flux de neutrons sont très importants. Pendant 40 ans, les astrophysiciens ont essayé de modéliser ce processus R dans des explosions de supernova sans vraiment y arriver.
Si les étoiles fabriquent des éléments chimiques que l'on retrouve sur Terre, cela signifie que notre corps, en tant qu'être humain, est lui aussi composé de poussière d'étoiles ?
C'est bien ça.
On est constitué d'éléments chimiques qui ont été produits au cœur d'anciennes étoiles, puisque ces anciennes étoiles ont éjecté la matière qu'elles avaient produite dans l'espace. À partir de cette matière, se sont formées de nouvelles étoiles, dont le Soleil, et avec son cortège de planètes, dont la Terre. Et donc, quelque part, tous les éléments chimiques présents sur Terre, y compris les éléments chimiques qui constituent notre corps, ont été produits au cœur des étoiles.
Les éléments chimiques qui constituent notre corps ont été produits au cœur des étoiles. Et alors, si on y pense, chaque souffle que nous prenons, chaque battement de cœur, chaque respiration nous relie à ces astres lointains.
C'est un peu ça, d'une façon ou d'une autre. Sur cette idée, Noémie, pourquoi ne pas se poser ce soir sur la pelouse du Cap, lever les yeux et contempler le ciel et ces étoiles auxquelles nous sommes, en quelque sorte reliés ensemble ?
Très bonne idée, Sylla. C'est la bonne occasion, je dirais. On ne l'avait pas fait depuis si longtemps. Dis-moi, à quand vraiment la dernière fois qu'ensemble on a regardé le ciel ?
Mon regard se croise, je te vois sourire, mais j'ai peur de la distance. On échange ses phrases, je te vois grandir, et je perds de la confiance.
Là, quand j'étais petite, je regardais le ciel la nuit à travers les Vélux qui se trouvaient juste au-dessus de mon lit et je cherchais les étoiles qui brillaient les plus. J'en choisissais trois et chacune représentait un membre de ma famille décédé dont je n'ai plus aucun souvenir. J'estimais qu'ils se reposaient en journée et que la nuit, ils étaient là, à prier pour me surveiller dans mon sommeil. Ce sont ces éclats de lumière qui me rassuraient lorsqu'ils me manquaient. Et aujourd'hui, je les vois encore scintiller. Certaines plus que d'autres. Sophie Vanek a expliqué pourquoi.
Oui, alors elle a expliqué que tout dépend du type d'étoile. On peut les distinguer notamment grâce à leur couleur. Certaines sont bleues, d'autres rouges, comme tu l'as déjà remarqué. Cela nous renseigne sur leur température, mais pas seulement. La couleur et la luminosité indiquent aussi la distance par rapport à la Terre. Certaines étoiles très lumineuses peuvent être très loin, tandis que d'autres plus proches paraissent moins brillantes. La distance joue donc un rôle majeur dans ce que nous percevons.
Selon elle, nous sommes en train de perdre le contact avec le ciel. Mais pourquoi ?
Eh bien ça, c'est parce qu'elle estime que nous sommes la première génération à avoir vraiment perdu ce lien avec le cosmos. Et la raison principale est la pollution lumineuse. La lumière de nos villes cache de plus en plus les étoiles. Et à cela s'ajoutent les mégaflottes de satellites qui, bientôt, pourront être aussi nombreuses que les étoiles visibles.
On pourrait dire qu'elle est inquiète en tant qu'astronome.
Inquiète, je ne sais pas vraiment, mais je dirais plutôt triste. Mais elle trouve ça dommage.
Pourquoi je pense que c'est un petit peu dommage ? C'est parce que, du coup, on a tendance à oublier que la Terre est une minuscule planète perdue dans l'immensité du cosmos et que la Terre est la seule planète, par l'évolution même, à laquelle nous sommes parfaitement adaptés pour survivre. Il n'y a pas d'autres planètes dans un voisinage proche, et donc par là je parle, il n'y a aucune planète du système solaire ou aucun satellite de planète du système solaire sur lequel nous pourrions vivre. Et toutes les annonces comme quoi nous allons établir des colonies martiennes ne sont que purs mensonges à ce stade.
D'ailleurs, elle tenait absolument à faire passer un message aux auditeurs et aux auditrices de Radio Campus.
Il est donc très important de prendre conscience que par l'évolution, l'être humain est adapté à survivre aux conditions qui règnent sur une seule planète, et que c'est notre planète Terre. Et que cette planète Terre, c'est un petit caillou errant dans le vaste univers, et que nous n'avons pas de planète B, nous n'avons pas d'autres radeaux de survie accessibles à ce stade, et à mon avis, pas dans un proche avenir.
Elle a expliqué que cette idée lancée par des personnes qui n'ont souvent aucune connaissance de l'astronomie n'était que du mensonge et que ça ne sert à rien d'autre qu'à lever des fonds pour développer des recherches. Mais outre ce point positif, les gens, souvent âgés, pensent que la vie sur Mars est vraiment possible. Alors que non, nous ne vivrons jamais sur Mars.
Mais a-t-elle précisé les raisons pour lesquelles nous ne pourrons pas y vivre ?
Oui. Elle a expliqué que toutes les autres planètes que la Terre sont hostiles à l'espèce humaine. Il est donc impossible de vivre dessus. Les rayonnements cosmiques qui s'y trouvent nous feront irradier et nous causeront un cancer duquel nous en mourrons très vite. Tout ce que l'on peut voir sur le grand écran à propos de la vie sur Mars, comme par exemple « Seul sur Mars » de Ridley Scott, n'est donc juste de la fiction. Tu sais, Noémie, je repense à ton anecdote sur les étoiles et ça m'a fait penser à la réflexion de l'astronome sur notre titre. Elle trouvait que dans notre titre, « Les étoiles sont-elles nos amies ?», le terme « ami » renvoyait à un lien affectif que nous n'avons pas forcément. Or, au-delà du rôle scientifique, les étoiles ont toujours fasciné l'être humain. Elles sont bien plus que des simples corps lumineux dans le ciel, elles sont des repères, des compagnons silencieux de nos nuits.
Alors pourquoi ressentons-nous ces liens si particuliers avec elles ?
Regarder les étoiles, c'est ressentir une connexion avec quelque chose de plus grand que soi. C'est comprendre que notre vie n'est qu'une infime partie d'un cosmos immense et pourtant que nous faisons partie de ce tout. Les étoiles ont inspiré des poèmes, des histoires, des cartes, des mythes et continuent d'éveiller notre imagination et notre émotion. D'un point de vue scientifique, chaque lumière que nous voyons est un témoignage du passé, un signal envoyé il y a des millions d'années et qui a voyagé à travers l'espace pour atteindre nos yeux. Mais émotionnellement, elle devient vivante, proche de nous. Chaque étoile nous relie à l'histoire de l'univers et aux générations humaines qui ont contemplé ce même ciel avant nous. Alors ce soir, avant de dormir, prenez un instant pour lever les yeux. Choisissez votre étoile à vous, celle qui vous parle, celle qui vous réconforte, celle qui vous inspire. Même si elle se trouve à des millions d'années-lumière, elle peut illuminer vos pensées et devenir, en quelque sorte, votre étoile personnelle, votre amie céleste.
Tu regarderas la nuit, les étoiles. C'est trop petit chez moi pour que je te montre où se trouve la mienne. C'est mieux comme ça. Mon étoile, ça sera pour toi une des étoiles. Alors, toutes les étoiles, tu aimeras les regarder. Elles seront toutes tes amies. Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, page 91.
Chers auditeurs et chères auditrices de Radio Campus, je suis Sila Yalcine.
Et moi, Noémie Soldati.
Et nous vous avons présenté notre émission Histoire du savoir, intitulée Les étoiles sont-elles nos amies? Nous espérons vous avoir donné la réponse à cette question et avoir répondu des savoirs qui vous seront peut-être utiles. À très bientôt, Radio Campus.
Your attitude. He tries to emphasize. He spends the afternoon between your thighs. How's that for gratitude? I apologize. For gratitude.